Idaho s'arrêta à 6 pas seulement du chariot royal, sans chercher à dissimuler sa détermination rageuse. Il ne se demandait même pas si Leto connaissait l'existence du laser. Cet impérium s'était trop écarté de l'ancienne morale des Atréides. Il s'était transformé en un aveugle char de Jegannath qui écrasait les innocents sur son chemin. Il fallait mettre un terme à cela. « Je suis venu vous parler de Siona et de quelques autres questions », déclara Idaho. Il tourna son porte-document de manière à pouvoir en sortir facilement le laser.
« Très bien », dit Leto d'une voix pleine d'ennui.
Siona est la seule qui a pu s'échapper, mais elle a toujours sa base pleine de rebelles.
Tu crois que je ne le sais pas?
Je connais votre dangereuse tolérance à l'égard des rebelles. Ce que j'ignore par contre, c'est le contenu du paquet qu'elle vous a volé.
Ah, ça, ce sont les plans complets de la citadelle.
L'espace d'un instant, Idaho redevint juste le capitaine de la garde impériale, profondément choqué par un tel manquement aux règles de la sécurité.
Et vous l'avez laissé partir avec?
Non, c'est toi. Idaho eut un mouvement de recul devant cette accusation. Peu à peu, l'assassin potentiel de fraîche date regagna le contrôle.
C'est tout ce qu'elle a emporté? Il y avait 2 volumes, des copies de mes mémoires avec les plans. Elle les a pris aussi.
Idaho étudia le visage immobile de Leto.
Qu'est-ce qu'il y a dans ces mémoires? Parfois, vous dites que c'est votre journal intime, parfois un livre d'histoire.
Un peu des deux. Je suppose qu'on pourrait appeler ça un manuel aussi.
Ça vous ennuie qu'elle les ait volés?
Leto s'autorisa un léger sourire que Idaho accepta comme une dénégation. Puis, une onde de tension momentanée traversa le corps de l'empereur Dieu, tandis que le Duncan ouvrait le porte-document. Qu'allait-il sortir? Le laser ou les papiers? Bien que la majeure partie de son corps possédât une remarquable résistance à la chaleur, Leto savait qu'à certains endroits, en particulier au visage, il était vulnérable à ce type d'arme. Idaho sortit son rapport et avant même qu'il commençât à le commenter, Leto comprit les signes qui émanaient du Gola. Sous prétexte de lui apporter des informations, il cherchait en réalité la réponse à son propre problème. Idaho voulait justifier une suite d'actions déjà arrêtées.
Nous avons découvert une secte d'adorateurs d'Alia sur Giedi Prime, déclara-t-il.
Leto demeura silencieux tandis que le Gola lui exposait l'affaire en détail.
Quel ennui!
Il laissa vagabonder ses pensées. Les adorateurs de la sœur de son père, depuis longtemps défunte, ne servaient à présent qu'à procurer un amusement limité. Mais les Duncan y voyaient invariablement une sorte de menace larvée. Idaho acheva la lecture de son rapport. Ses agents allaient jusqu'au bout, c'était indéniable. Mais aussi d'un ennui mortel.
Ce n'est rien de plus qu'un renouveau du culte d'Isis, fit Leto. Mes prêtres et mes prêtresses vont avoir du sport s'ils veulent interdire ces sectes.
Idaho secoua la tête comme pour répondre à une voix intérieure.
Le Bene Gesserit était déjà au courant de leur existence, dit-il.
Voilà enfin une chose qui intéressait Leto.
Les sœurs ne m'ont jamais pardonné de les avoir privées de leur programme génétique.
Cela n'a rien à voir avec la génétique, fit le Duncan. Leto ne laissa rien paraître de son léger amusement. Les Duncan se montraient toujours très sensibilisés sur ces questions de génétique. Pourtant, certains d'entre eux servaient parfois de reproducteurs.
« Je comprends, » dit Leto. « Il est certain que les sœurs du Bene Gesserit sont toutes plus ou moins folles. Mais la folie est un réservoir chaotique de choses surprenantes. Et il y a des surprises qui ont beaucoup de valeur.
Je ne vois vraiment pas quelle valeur cela pourrait avoir. »
As-tu l'impression que les sœurs sont derrière cette secte?
Oui.
Explique-toi. Elles ont un lieu saint. Elles l'appellent le sanctuaire du Christ.
Vraiment.
Et leur grande prêtresse s'appelait la gardienne de la lumière de Jessica.
Cela vous dit quelque chose?
C'est charmant,
fit Leto sans chercher à dissimuler son amusement.
Qu'est-ce qu'il y a de charmant là-dedans?
Ils confondent ma tante et ma grand-mère en une seule déesse. »
Idaho secoua lentement la tête d'un côté puis de l'autre, sans comprendre. Leto s'accorda une petite pause intérieure, moins que le temps d'un battement. La grand-mère en lui n'appréciait pas tellement ce culte de Giedi Prime. Il dut dresser un mur autour de son identité et de ses souvenirs.
« Que veut cette secte, à ton avis ?» demanda Leto au Gola.
« C'est évident. Miner votre autorité en instituant un culte parallèle. »
« C'est trop simple. Les sœurs sont peut-être folles, mais elles ne sont pas demeurées. »
Idaho attendit une explication.
« Elles veulent plus d'épices, » reprit Leto. « Plus de révérendes mères.
Et elles vous ennuient dans l'espoir que vous les achèterez ?»«
Là, tu me déçois, Duncan. »
Idaho se contenta de continuer à fixer Leto. Celui-ci parvint à soupirer, chose qui n'était guère facilitée par sa nouvelle conformation anatomique. D'habitude, les Duncan étaient un peu moins ternes, mais Leto supposa que les manigances de celui-ci obnubilaient ses réflexes.
« Elles ont choisi Giedi Prime comme base, » reprit l'Empereur Dieu. « Ça ne te suggère rien ?»
C'était une place forte des Harkonnen, mais cela appartient à l'histoire ancienne.
« Ta sœur y a trouvé la mort, victime des Harkonnen. Il est donc normal que dans ton esprit, ceci soit lié à Giedi Prime. Pourquoi ne l'as-tu pas signalé plus tôt ?»«
Je ne pensais pas que c'était important. » Leto pinça les lèvres. La mention de sa sœur avait troublé le Duncan. Cet homme savait, tout à fait abstraitement, qu'il n'était que le dernier en date d'une longue série de doubles issus des cuves Axlotl-Ixiennes, à partir de quelques cellules originales. Le Duncan ne pouvait échapper à ses souvenirs ravivés. Il ne pouvait pas oublier que c'était les Atreides qu'il avait libérés du joug des Harkonnen.
« Et même si je suis devenu beaucoup d'autres choses, » songea Leto, « je suis toujours un Atreide. »
« Qu'insinuez-vous ? » demanda Idaho.
Leto décida qu'un bon coup de gueule s'imposait ici. Il le laissa jaillir à pleine puissance.
« Les Harkonnen étaient des collectionneurs d'épices. »
Idaho fit un pas entier en arrière. Leto poursuivit d'une voix plus normale.
« Il y a un magot qui n'a pas encore été découvert sur Giedi Prime. Les sœurs essayaient de mettre la main dessus, leur machin mystique servant de couverture à la chasse à l'épice. »
Idaho était sidéré. Une fois formulée, la réponse paraissait évidente.
« Je n'ai pas su voir ça, » se dit-il.
Le coup de gueule de Leto l'avait brutalement replongé dans son rôle officiel de capitaine des gardes. Idaho n'ignorait pas comment fonctionnait l'économie de l'Empire, simplifiée à l'extrême. Tout système d'intérêt était banni. Les transactions s'effectuaient comptant au moment de la livraison. La seule monnaie en vigueur était à l'effigie de l'Empereur Dieu, mais elle était basée sur l'épice, produit dont la valeur, déjà énorme, ne cessait d'augmenter. Dans une petite valise, on pouvait transporter le prix d'une planète entière.
Contrôler la monnaie et les tribunaux. Que le menu peuple s'amuse avec le reste, songea Leto.
C'était le vieux Jacob Broom qui disait cela, et Leto entendait glousser le vieillard en lui.
Les choses n'ont pas tellement changé, Jacob.
Idaho prit une inspiration profonde avant de déclarer « Il faudrait prévenir immédiatement le comité de la foi. » Leto ne répondit pas. Interprétant cela comme une invitation à changer de sujet, Idaho poursuivit la lecture de son rapport, mais Leto ne l'écoutait qu'avec une fraction de son esprit conscient. Comme s'il avait branché un circuit de monitorage qui enregistrait automatiquement les paroles et les gestes du Gola, avec de temps à autre une augmentation de volume pour permettre un commentaire intérieur.
Et maintenant je parie qu'il va me parler d'Etleilaxu. C'est un terrain dangereux pour toi, Duncan.
Mais cela ouvrait une voie nouvelle aux réflexions de Leto.
Les habiles Tleilaxu continuent à me fabriquer des Duncan à partir des cellules originales.
Ils savent comme moi que c'est une chose interdite par la religion. J'ai proscrit toute manipulation artificielle en matière de génétique humaine. Mais les Tleilaxu ont compris à quel point je chéris ces Duncan, les capitaines de ma garde.
Je ne crois pas du reste qu'il soupçonne l'ironie de la chose. Je trouve amusant que ce soit un fleuve qui porte aujourd'hui le nom d'Idaho, alors qu'il s'agissait autrefois d'une montagne. Mais cette montagne, elle n'existe plus. Nous avons dû la raser pour nous procurer les matériaux nécessaires à la construction de la grande muraille qui entoure Mont-Sarrir. Naturellement, les Tleilaxu n'ignorent pas que je réintroduis parfois les Duncan dans mon propre programme génétique. Ils représentent la force bâtarde et bien plus. Toute flamme doit avoir son régulateur. J'avais l'intention de croiser celui-ci avec Siona, mais je ne sais pas si c'est encore possible à présent. Ah, il dit qu'il faudrait sévir contre le Tleilax. Pourquoi ne me demande-t-il pas franchement « Êtes-vous sur le point de me remplacer ?» Je serais presque tenté de le lui dire. Une nouvelle fois, la main d'Idaho se glissa à l'intérieur du porte-document. Le moniteur intérieur de l'étau ne perdait pas un battement. Le laser ou d'autres rapports? Ce sont d'autres rapports. Le Duncan est prudent. Il lui faut non seulement l'assurance que j'ignore ses intentions, mais aussi d'autres preuves que je suis indigne de sa loyauté. Ses hésitations se prolongent. Il a toujours été ainsi. Je lui ai pourtant assez répété que je ne veux pas me servir de ma préscience pour déterminer le moment où je quitterai cette antique dépouille. Mais il a des doutes. Il en a toujours eu. Cette caverne absorbe sa voix, et si je n'avais pas une telle sensibilité de perception, l'humidité qui règne ici masquerait les signaux chimiques de ses angoisses. Je chante sa voix de ma perception immédiate. Quel ennuyeux personnage ce Duncan est devenu. Il me raconte maintenant l'histoire, avec un grand H, de la rébellion de Siona, sans doute pour me reprocher personnellement sa dernière escapade. « Ce n'est pas une rébellion ordinaire, dit-il. L'imbécile, cela me force à refaire surface. Toutes les révoltes sont non seulement ordinaires, mais mortellement ennuyeuses. Elles sont toutes faites sur le même moule, leur principe moteur est la dépendance à l'adrénaline, ainsi que le besoin de pouvoir personnel. Tous les révolutionnaires sont des aristocrates en chambre. C'est pourquoi il m'est si aisé de les convertir. Pourquoi les Duncan ne m'entendent-ils jamais pour de bon quand je leur explique ces choses? J'ai déjà eu cette discussion avec ce Duncan-là, dans cette crypte même. Ce fut l'une de nos premières rencontres. L'art de bien gouverner commande que vous ne laissiez jamais l'initiative à vos éléments extrémistes, disait-il. Quel pédant! Les extrémistes surgissent à chaque génération et il ne faut surtout pas essayer d'enrayer le processus. C'est ce qu'il voudrait faire, lui, quand il parle de ne pas leur laisser l'initiative. Il voudrait les museler, les restreindre, les réprimer, les détruire. Il est la preuve vivante qu'il n'y a guère de différence entre la mentalité policière et la mentalité militaire. J'avais beau lui dire « les extrémistes ne sont à craindre que quand on cherche à les supprimer », tu devras faire la preuve que tu sais utiliser ce qu'ils ont de mieux à offrir. Il ne cessait de répéter « Ils sont dangereux, ils sont dangereux !» Il croit que la répétition engendre une espèce de vérité. Lentement, pas à pas, je lui inculquais ma méthode. Il donnait même parfois l'impression d'écouter. C'est leur grande faiblesse, vois-tu, Duncan? Les radicaux ont des vues trop simplistes. Pour eux, c'est blanc ou noir, bien ou mal, ami ou ennemi. En abordant de cette manière dichotomique des questions essentiellement complexes, ils frayent la voie au chaos. L'art de bien gouverner, comme tu dis, c'est en réalité l'art de maîtriser le chaos. Nul ne peut parer l'imprévu de tous les côtés à la fois. L'imprévu? Qui parle d'imprévu? Le chaos n'a rien d'imprévu. Ses attributs sont prévisibles. Pour commencer, il chasse l'ordre et renforce les extrémités. N'est-ce pas justement ce que les extrémistes cherchent à faire? Ne veulent-ils pas bouleverser les structures afin de pouvoir s'emparer des commandes? C'est seulement ce qu'ils croient faire. En réalité, ils créent de nouveaux extrémistes, de nouveaux radicaux, et ils continuent selon la même ligne. Et si un extrémiste se rendait compte des complexités et vous affrontait sur ce terrain-là? Ce ne serait pas un extrémiste, mais un prétendant au pouvoir, un rival. Oui, mais que faites-vous dans ces cas-là? On coopte ou on tue? C'est en ces termes que le problème s'est posé depuis le commencement, au niveau tribal.
et les messies.
Comme mon père? Le Duncan n'aime pas qu'on lui parle de cette façon. Il sait que d'un certain point de vue, je suis aussi mon père. Il sait que je peux lui parler avec la voix et la personne de mon père, que mes souvenirs sont précis, inaltérables et inéluctables. Avec réticence, il répond « Oui, si vous voulez. »
Duncan, ils sont tous en moi et je suis bien placé pour savoir. Il n'a jamais existé de rebelles vraiment désintéressés. Ils sont tous hypocrites, conscients ou inconscients. Ils sont tous à mettre dans le même sac.
Voilà qui soulève un petit tollé au sein de mes souvenirs ancestraux. Certains de mes hôtes n'ont jamais renoncé à croire qu'ils détenaient en exclusivité les clés de tous les problèmes de l'humanité. En cela, bien sûr, ils sont comme moi. Et je sympathise avec eux, même si je leur dis que l'échec est une démonstration en soi suffisante. Je suis forcé quand même de les tenir à distance. À quoi bon s'attarder sur eux? Ils ne sont à présent guère plus que de pathétiques rappels, tout comme ce Duncan qui se trouve en face de moi avec son laser. Grand Dieu d'en bas, il m'a surpris en train de rêvasser. Il a son laser à la main, pointé sur ma figure.
« Toi, Duncan, tu me trahis aussi? Êtes tout brouté ?»
Chaque fibre sensitive de l'étau se mit en alerte. Il sentit tressaillir son corps. La chair du ver avait sa volonté propre. Idaho demanda sur le ton de la dérision.
« Expliquez-moi, Leto, combien de fois dois-je payer ma dette de loyauté ?»
Leto reconnut la question implicite. « Combien y a-t-il eu de Duncan avant moi ?» Il voulait toujours savoir ça. Ils le demandaient tous, l'un après l'autre, et aucune réponse ne les satisfaisait. Ils étaient incrédules. De sa voix la plus triste de Muad'Dib, Leto répliqua «
Tu n'es pas fier de mon admiration pour toi, Duncan. Tu ne t'es jamais demandé ce qu'il y avait en toi pour que, au fil des siècles, je te choisisse toujours pour compagnon de tous les instants.
Vous savez que je suis le dernier des crétins.
Duncan !»
La voix de Muad'Dib en colère avait toujours eu pour effet de faire fondre Idaho. Il avait beau savoir qu'aucun adepte du Bene Gesserit n'avait mieux que Leto maîtrisé le pouvoir de la voix, il ne pouvait demeurer insensible à ce souvenir-là. Le laser trembla dans sa main. C'était plus qu'il n'en fallait à Leto. Il jaillit du chariot en roulant sur lui-même. Idaho ne l'avait jamais vu quitter son véhicule de cette manière. Il ne soupçonnait pas que cela fût possible. Pour Leto, il n'y avait que deux conditions préalables. La présence d'une menace réelle que le ver put sentir et le mouvement réflexe de son corps. Le reste était facile et se faisait à une vitesse qui déconcertait Leto lui-même. Le laser constituait sa préoccupation majeure, mais bien qu'une telle arme pût lui infliger de sérieuses égratignures, peu de gens soupçonnaient les capacités de tolérance à la chaleur du corps prévermiforme. Dans sa lancée, Leto frappa Idaho. Et le laser fut dévié au moment où le coup partait. L'un des inutiles moignons palmés, vestige des jambes et des pieds que possédait autrefois Leto, répercuta dans sa conscience une onde de sensations violentes. L'espace d'un instant, il ne connut que la douleur. Mais le corps vermiforme restait libre d'agir, et ses réflexes donnèrent naissance à une succession de soubresauts aveugles. On entendit des os craquer. Le laser glissa au loin sur le sol dallé de la crypte, lâché par le mouvement spasmodique de la main d'Idaho. Roulant pour dégager de sa masse le corps d'Idaho, Leto se tint prêt à attaquer de nouveau, mais c'était inutile. Son moignon blessé émettait toujours des signaux de douleur, et il sentit que l'extrémité de la palme, brûlée, était tombée. Mais déjà la peau de truite avait refermé la plaie. La douleur s'était transformée en élancement désagréable. Idaho remua. Il était sur le point de mourir, cela ne faisait aucun doute. Sa cage thoracique était enfoncée, il ne respirait qu'au prix de douloureux efforts, mais il réussit à ouvrir les yeux et à fixer l'étau.
« Que ces enveloppes charnelles sont résistantes !» songea l'étau. Les lèvres du Duncan ne prononcèrent qu'un mot à peine audible.
« Siona !»
Puis la vie le quitta.
« Intéressant, se dit l'étau. Serait-il possible qu'entre Siona et ce Duncan,
Non. Il a toujours affiché le plus total dédain pour les gamineries de Siona. Leto remonta dans le chariot royal. Il venait de l'échapper belle. Le Duncan, c'était certain, avait visé le cerveau. Leto ne perdait jamais de vue que ses mains et ses appendices palmés étaient vulnérables. Mais il avait bien pris soin de ne faire savoir à personne que ce qui avait été autrefois son cerveau n'était plus directement associé à sa tête. Ce n'était même plus, à vrai dire, un cerveau de dimension humaine, mais une série d'agrégats nodaux répartis sur toute la longueur de son corps. Leto ne s'était confié sur ce point à personne, mais il l'avait écrit dans ses mémoires.